Bienvenue dans le débat, notre espace d'échange intellectuel et de croisement des perspectives. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du référendum du 18 août 2007 aux Maldives.
Oui, un moment vraiment charnière, avec, il faut quand même le rappeler, une participation historique de 78,01% sur un peu moins de 200 000 électeurs inscrits.
C'est ça, environ 199 800 électeurs qui devaient trancher entre un régime présidentiel et un régime parlementaire. Mais la vraie question, c'est de savoir si ce scrutin marquait l'avènement d'une réelle transition démocratique ou bien si c'était juste une, disons, une illusion institutionnelle.
Absolument.
De mon côté, quand j'analyse les faits, je suis convaincu que ce vote a été un exercice démocratique fondateur et tout à fait crédible.
Eh bien, je suis persuadée du contraire. Je soutiens que c'était plutôt une façade, une manœuvre qui n'a absolument pas démantelé l'autocratie profonde de l'archipel.
Alors, commençons par les chiffres, parce qu'ils sont têtus. Le régime présidentiel l'a emporté de manière très nette, avec 62,04% des voix.
Ce qui représente un peu plus de 95 600 suffrages, c'est vrai.
Exactement. 95 619 suffrages, très exactement, contre 37,96% pour le modèle parlementaire. Et même si l'opposition, donc le Parti démocratique des Maldives, a crié la manipulation, les observateurs étrangers ont été clairs.
Clair, le mot est peut-être un peu fort, non ?
Eh bien, ils ont qualifié ce vote de scrutin le plus régulier de l'histoire du pays. C'est pas rien. Et surtout, ce référendum a permis de rédiger la Constitution de 2008.
D'accord. Le texte a évolué.
Il a instauré la limitation des mandats. Et, en fin de compte, ça a mené à la victoire pluraliste de Mohamed Nachid, avec 54% des voix au second tour face à Maumoon Abdul Gayoom.
Oui, enfin, c'est une transformation sur le papier, je vous l'accorde. Mais il faut se demander pourquoi Gayoom, qui était quand même au pouvoir depuis 1978, a milité avec autant de ferveur pour ce système présidentiel.
Bah pour s'adapter à la nouvelle donne politique, j'imagine. Il n'avait plus le choix.
Pas vraiment. Il avait derrière lui un appareil sécuritaire très fort. S'il a soutenu ce modèle, c'était précisément parce que ça lui permettait de maintenir un contrôle direct sur l'exécutif sans passer par le Parlement.
Je vois ce que vous voulez dire, mais la transition a bien eu lieu.
Une transition très fragile alors. La preuve, regardez les événements de février 2012 avec la démission de Nachid, 3 ans seulement après son investiture. Ça prouve bien que cette nouvelle architecture étatique n'a pas suffi.
C'est-à-dire ?
Elle n'a créé aucune culture de respect des contre-pouvoirs. La machine autocratique continuait de tourner dans les sous-sols.
Attendez, là je dois vous arrêter. Vous utilisez la chute de Nachid en 2012 pour discréditer le référendum de 2007. Mais cette chute est de sa propre responsabilité.
Ah, vous pensez vraiment que c'est lui le seul fautif ?
Oui, en grande partie. La crise a débuté parce que Nachid a pris la décision de faire arrêter le juge Abdullah Mohamed. C'est cette ingérence directe qui a provoqué la mutinerie policière.
Mais ce juge...
Ce n'est pas un défaut du système présidentiel en soi. D'ailleurs, même la commission d'enquête du Commonwealth a rendu ses conclusions par la suite.
Et que disent-elles exactement ?
Elle a conclu que la démission de Nachid était volontaire. Ils ont formellement écarté la thèse du coup d'État, ce qui montre que les institutions ont simplement réagi à un président qui franchissait la ligne rouge.
Volontaire. Nachid a lui-même affirmé avoir démissionné sous la menace des armes. Il ne s'est pas levé un matin avec une vendetta personnelle contre un juge. Il était méthodiquement étouffé par un système judiciaire entièrement fidèle à l'ancien dictateur.
C'est ce qu'il a déclaré, oui. Mais les faits établis par la commission disent autre chose.
Les faits montrent surtout que les loyalistes de Gayoom ont utilisé cette crise pour reprendre le pouvoir avec le vice-président Wahid. En fait, c'est comme dessiner de superbes nouveaux plans pour une maison.
Je sens venir l'analogie.
Oui. Ça ne sert à rien de faire de nouveaux plans si on confie la construction aux mêmes entrepreneurs corrompus qui ont ruiné la précédente. Les réseaux de Gayoom étaient ces entrepreneurs. Ils n'ont jamais quitté le chantier.
L'analogie est intéressante. Et je vous accorde que l'appareil d'État était encore fortement imprégné de ses anciens réseaux.
C'est indéniable.
Mais quand bien même, ce vote a forcé une autocratie insulaire à négocier sa survie par les urnes, il ne pouvait plus simplement diriger par la force. Ça, c'est un changement massif de la réalité politique de l'époque.
Oui, mais jouer le jeu démocratique pour mieux neutraliser la démocratie, ça ne valide pas le système. Ça montre au contraire les limites de l'ingénierie institutionnelle.
Vous voulez dire que le texte ne suffit pas ?
Exactement. Les Maldives prouvent que l'on peut écrire la plus belle des constitutions, mais si la culture politique et ceux qui détiennent la force n'acceptent pas l'alternance pacifique, les textes de loi ne vous protégeront pas.
Ce qui nous ramène, je crois, à la double nature de ce vote du 18 août 2007. D'un côté, on a un véritable exercice crédible par les urnes, qui a tout de même brisé un monopole de 30 ans.
Et de l'autre, on observe une transition complètement sapée de l'intérieur, par des dynamiques de pouvoir préexistantes qui se sont juste adaptées aux nouvelles règles.
C'est exactement ça. C'est une leçon brutale de science politique. On peut mettre à jour le matériel d'une constitution, mais si le système d'exploitation reste géré par les anciens réseaux, la machine finira inévitablement par planter.
Tout à fait. C'est un terrain qui est resté très instable.
Nous laisserons donc nos auditeurs déterminer si les failles de 2007 étaient impossibles à combler. Merci de nous avoir suivis dans cette réflexion et continuez à explorer les nuances derrière chaque grand débat.